Merci d'écouter RFI. 3h à Paris, 2h en temps universel.
Mathis Limano.
Et à la une de l'actualité, le premier discours hier de Donald Trump devant le Congrès américain. Un discours marqué notamment par l'expulsion d'un élu démocrate, mais aussi par cette attaque contre le Lesotho, un pays dont personne n'a jamais entendu parler, a lancé Donald Trump, qu'il accuse de se servir de l'aide américaine pour promouvoir la communauté LGBT+. Explication dans un instant. Cette aide américaine gelée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en partie débloquée par une décision de la Cour suprême. Une décision surprenante. La Cour est normalement acquise au président. On est à Washington dans ce journal. On est aussi à Beyrouth, le Liban, où l'offensive israélienne pourrait faire l'objet d'une enquête internationale pour crimes de guerre, selon Amnesty International. Et puis l'Europe, au chevet de son industrie automobile, face à la concurrence chinoise et les normes environnementales, la Commission européenne a présenté son plan d'urgence ce mercredi. Et direction le Lesotho pour commencer, un pays dont personne n'a jamais entendu parler et qui bénéficie de millions de dollars d'aide américaine pour promouvoir la communauté LGBT+. La sortie fracassante, voire insultante de Donald Trump, c'était lors de son discours de politique générale devant le Congrès. Il justifiait alors les coupes budgétaires massives de l'aide vers les pays étrangers. Hier, mercredi, le gouvernement du Lesotho s'est dit choqué et embarrassé et a envoyé une lettre de protestation à Washington. Côté société civile, le journaliste du média Sky Alpha et militant pro-démocratie Cananello Bolwetse déplore l'ignorance de Trump.
Les États-Unis possèdent toute une ambassade ici dans notre capitale, Maseru. Donc dire que personne dans le gouvernement américain ne connaît le Lesotho, c'est étrange et c'est bizarre. Donald Trump fait preuve d'une grande ignorance, ou alors il voulait insulter le Lesotho et ses citoyens. Mais si jamais il souhaite en apprendre plus sur nous, il faut lui dire que notre pays est situé en Afrique australe, que Bill Gates est déjà venu au Lesotho et que son conseiller Elon Musk et sa compagnie Starlink cherchent en ce moment à s'installer au Lesotho. Donc c'est très étrange et très embarrassant pour Trump de dire que personne n'a jamais entendu parler de notre pays, alors que l'une des personnes les plus proches de lui est en ce moment même en train de faire une demande de licence pour son entreprise Starlink auprès des autorités du Lesotho.
The person who is very close to him has his company applying for a license in Lesotho.
Propos recueillis par Sidi Yansané. L'aide internationale américaine, justement, en partie débloquée par une décision de la Cour suprême. Pourtant, à majorité conservatrice, la Cour a ordonné à l'administration Trump de payer 2 milliards d'aides qui étaient gelées jusque-là. Un revers judiciaire pour le président américain, Guillaume Nodin.
Il y en a pour près de 2 milliards de dollars. 2 milliards parmi tous les financements gelés dès le premier jour du mandat de Donald Trump pour 90 jours. Sauf qu'entre-temps, un juge avait statué que ces fonds alloués par le Congrès devait être versé à leurs bénéficiaires. C'est ce jugement que vient de valider la Cour suprême avec cette limite, c'est que les versements correspondent au paiement d'un travail déjà accompli à l'international mais aussi par des entreprises et des organisations sur le territoire américain. C'est la première fois que la Cour se prononce sur le fond sur une décision de l'administration et elle se prononce contre. La raison, c'est que 2 des 6 juges conservateurs se sont joints aux 3 juges dits libéraux pour faire basculer la majorité. Ce n'était manifestement pas ce qui était attendu, puisque dans un texte parallèle, les 4 autres juges conservateurs mis en minorité se disent abasourdis par cette décision. Une décision qui, comme toutes celles de la Cour, est définitive et sans appel possible. Elle intervient alors que l'administration Trump a pratiquement démantelé l'Agence américaine pour le développement international. Elle gère un budget annuel de plus de 40 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 40% de l'aide humanitaire publique déboursée dans le monde, tout pays confondu. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Donald Trump avec qui Volodymyr Zelensky tente d'arrondir les angles. Kiev assure travailler à de nouveau pour parler avec les États-Unis. Après le clash à la Maison-Blanche, l'annonce par Washington de la mise en pause de l'aide militaire, puis du partage du renseignement américain. Une reprise de contact à la veille d'un sommet extraordinaire des Européens ce jeudi. Réunis à Bruxelles, les 27 vont se pencher sur un plan de réarmement du continent et d'aide à l'Ukraine, son montant 800 milliards d'euros. De quoi faire face à la menace russe qui nous touche sans connaître les frontières. Les mots d'Emmanuel Macron ce mercredi soir depuis le palais de l'Élysée. Sur un ton grave, le président français a estimé que face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Radio France Internationale à Beyrouth. Il est 4h passées de 5 minutes. Les attaques contre les institutions de santé, les ambulances et le personnel médical lors de l'offensive militaire israélienne au Liban doivent faire l'objet d'une enquête internationale pour crimes de guerre, selon Amnesty International. Pour l'ONG, Israël n'a pas assez fourni de preuves que les sites ou les véhicules visés abritaient bien des cibles militaires du Hezbollah. Pour tirer ses conclusions, Amnesty International a interrogé des survivants de plusieurs attaques israéliennes à Blajounaïdi.
D'octobre 2023 à novembre 2024, le sud du Liban et Beyrouth sont en proie à des bombardements israéliens intenses. Les infrastructures de santé, bien que protégées par le droit international, ne sont pas épargnées. L'armée israélienne accuse l'IHA, une organisation médicale affiliée au parti Hezbollah, de prêter ses locaux à des fins militaires. Amnesty a joint des soignants, directeurs d'hôpitaux et proches de victimes et visité des locaux touchés. Rien n'indique, selon elle, de présence armée. Sahar Mandour, chercheuse pour le Liban à Amnesty International.
Nous avons choisi de travailler sur 4 attaques différentes, incluant diverses organisations. Certaines affiliées au gouvernement, d'autres au Hezbollah, d'autres encore indépendantes comme la Croix-Rouge. Et cela afin de démontrer que ce sont tous les acteurs de la santé dans le sud qui ont été attaqués. Le droit international les protège tous, y compris l'IHA, tant qu'elle n'est pas impliquée dans des activités militaires.
Avec un nouveau Premier ministre libanais, ancien juge de la Cour pénale internationale, Amnesty presse les autorités à adhérer au statut de Rome et permettre une enquête internationale.
Nous avons un peu l'espoir que ce nouveau gouvernement agira afin que la CPI enquête et juge ces crimes de guerre présumés contre le personnel et les installations de santé.
Selon le ministère libanais de la Santé, entre octobre 2023 et novembre 2024, près de 70 hôpitaux ont été détruits, 222 membres du personnel de santé tués par les bombardements israéliens.
À Blajounaïdi, Donald Trump lance un dernier avertissement au Hamas pour la libération des otages. Avertissement dirigé aussi vers le peuple gazaoui. Je cite: si vous gardez les otages, vous êtes morts. Des menaces alors que les États-Unis sont secrètement en contact avec le Hamas. Information révélée ce mardi par le site Axios et confirmée par la Maison Blanche, qui affirme que Israël était au courant de ces échanges. La teneur, justement, porte sur la libération d'otages américains et de tous les captifs encore à Gaza, ainsi que sur la possibilité d'un cessez-le-feu permanent dans l'enclave palestinienne. En Australie, les habitants de la côte Est se préparent à l'arrivée d'Alfred. Ce cyclone tropical devrait toucher terre dans la matinée de vendredi, déclenchant de violents vents jusqu'à 160 km/h, de fortes pluies et des inondations. Rien qu'à Brisbane, 20 000 habitations sont menacées par la montée des eaux. Des évacuations sont en cours, des centaines d'écoles déjà fermées par anticipation. En Europe, cette bonne nouvelle pour les constructeurs européens, moins pour l'environnement. Ils pourront faire la moyenne 2025-2027 pour le calcul et le respect des nouvelles normes CO2. Est-ce que cela pourrait être le préambule à de futurs reculs sur les objectifs de baisse d'émissions en 2030, voire à l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035? Pour Pierre Leflève, en charge des transports au réseau Action Climat, la menace n'est pas à exclure, mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus.
Surtout, ce qui m'inquiète, c'est au-delà de la remise en cause des objectifs, c'est que même les objectifs 2030, si on a retardé l'atteinte des objectifs 2025, la pente va être encore plus raide. Et cette pente-là, alors, c'est toujours possible de la part des constructeurs, mais ça va nécessiter une transition plus brutale. Ceux qui vont payer les pots cassés, c'est pas les constructeurs, c'est le reste de la filière. Un constructeur, si du jour au lendemain, il veut largement accélérer sa production de véhicules électriques, il peut le faire parce qu'il y a une offre concurrentielle sur des fournisseurs pour tous les matériaux et la production nécessaire à un véhicule électrique, et il va juste pouvoir changer du jour au lendemain de fournisseur. Le problème, c'est tout le reste de la filière qui aura beaucoup plus de mal à pouvoir se retourner dans un laps de temps aussi court. Et puis aussi, il y a cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, mais plus on met de temps à l'atteindre, plus il y aura des émissions de gaz à effet de serre pendant ce temps-là et plus on accélère le réchauffement climatique.
Pierre Leflève avec Pauline Glaise. Suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Et dans le choc de la soirée, le PSG ultra dominateur s'est incliné 1-0 en fin de match contre Liverpool. Barcelone, réduit à 10, s'est imposé sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Leverkusen, également handicapé par un carton rouge, s'est incliné 3-0 contre le Bayern Munich. Plus tôt dans la soirée, l'Inter Milan signe une bonne opération. Victoire 2-0 à Rotterdam. Et puis, Paulo Fonseca suspendu jusqu'au 30 novembre par la commission de discipline de la Ligue française de football. Très lourde condamnation, près de 9 mois pour l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Dimanche dernier, lors de la rencontre entre l'OL et Brest, l'entraîneur des Gones s'était jeté contre l'arbitre Benoît Millot, tête contre tête, alors que ce dernier venait de vérifier une situation litigieuse. RFI, il est 3h10 à Paris.